Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Il y a des fois dans la rue des gens qui comprennent pas. Je me suis fait interpeller une fois à une gare parce que je me suis rendu au guichet. Et en fait, il y avait une file d'attente un peu en arrière. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui m'insultait parce que je m'étais pas mis correctement dans la file d'attente.
Bienvenue dans la quatrième saison de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comment reprendre le cours de sa vie quand, suite à un acte médical complexe, on perd la vue? Comment faire le deuil d'un quotidien rythmé par le sourire de ses enfants et apprendre à voir autrement? Voilà les questions face auxquelles s'est retrouvé Sébastien, trentenaire roman, devenu malvoyant. Au micro de Brise-Glace, il raconte sa progressive plongée dans le flou, sa solitude et la fierté des épreuves surmontées.
Moi, c'est Sébastien, donc j'ai 34 ans, je suis marié, papa, avec des enfants. Je suis devenu malvoyant relativement récemment, et puis je suis devenu informaticien et je suis employé dans une start-up vaudoise.
Dans quel genre de famille vous avez grandi ?
Une famille de la classe moyenne normale, mes parents ont divorcé, j'avais une dizaine d'années. Et puis je suis resté avec mon papa dans la région. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors? À quel moment est-ce que vous êtes devenu malvoyant, selon le terme que vous avez employé?
C'est un peu compliqué. Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes d'audition. En faisant des recherches médicales, on a fini par trouver qu'il y avait une tumeur sous la boîte crânienne qui, du coup, avait abîmé l'oreille. Et puis, c'est le traitement de la tumeur qui a provoqué des effets secondaires qui ont amené à la perte de la vision, à la destruction du nerf optique. Voilà, c'est arrivé assez vite.
Vous aviez quel âge ?
28-29 ans. J'étais déjà papa.
Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez ces problèmes d'audition qui méritaient d'être investigués ?
Ben, c'est une oreille bouchée. Comment ça peut arriver quand on change d'altitude ? Puis c'est resté plusieurs semaines. Au début, ils vous donnent des gouttes, puis il faut revenir dans un mois. Et puis ça passe pas, et puis petit à petit, ça a pris déjà un peu de temps à détecter. Bon, le premier médecin qui a fait le scanner, lui, il l'avait pas vu. Il m'a envoyé vers un spécialiste. Et un spécialiste met le CD avec les images dans l'ordinateur, lève les yeux, et puis annonce de manière complètement froide et détachée « Ah, bah ça, c'est une tumeur !» Là, c'est toute une panoplie d'examens qui se lancent. Au début, j'ai fait les examens sur Genève, qui m'ont proposé une opération à l'ancienne, pour aller enlever la tumeur à la petite cuillère, comme on dit. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que Lausanne avait du matériel bien plus sophistiqué qui permettait de faire de la radiothérapie par rayon gamma, qui permettait de brûler la tumeur sans ouvrir. Et dans mon cas, avec la proximité du cerveau, ça s'est avéré a priori une bien meilleure option. Puis c'est vraiment une descente de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle.
Donc vous êtes hospitalisé pour qu'on brûle cette tumeur avec cette technologie gamma ?
Alors c'est en ambulatoire. On arrive le matin, on nous donne un dafalgan et on nous visse un système sur le crâne pour pas qu'on bouge, en fait, pour faire un IRM pour qu'il paramètre pour viser juste. Puis à midi, on vous fixe sur la table de l'appareil à rayon gamma. On passe quelques heures dans la machine qui expose au rayon gamma. Puis on rentre chez soi le soir. Il y a des effets secondaires, mais c'est sur la durée. C'est des grosses fatigues, il n'y a pas forcément besoin d'être hospitalisé.
Et vous, concrètement, cette tumeur, elle était où ?
Très concrètement, donc elle est basée sur la veine jugulaire et à la base du crâne. Donc vraiment collée sous le cerveau, mais il y a la boîte crânienne qui est entre les deux. Puis quand ils ont passé au gamma knife, elle a un peu gonflé, puis elle a bouché les circuits qui évacuent certains liquides du cerveau.
Est-ce qu'on vous a informé quant aux possibles effets secondaires et qui pourraient être liés également à une altération du nerf optique ?
Oui. On vous fait signer ce qu'ils appellent un consentement éclairé, où ils vous annoncent qu'à peu près tout peut arriver, parce que, bah, effectivement, on est dans une zone plutôt sensible. Donc, on se souvient surtout qu'ils vous ont dit que vous risquiez de mourir. Le reste des autres choses qu'on m'a prévenu, j'ai pas retrouvé le formulaire, mais je pense que c'était clairement indiqué qu'il y avait le risque d'une atteinte oculaire, mais enfin, il y avait à peu près tous les risques possibles mentionnés sur ce formulaire. J'aurais pu être paralysé, j'aurais pu... Enfin... Mais soit on admet ces risques-là, soit de l'autre côté, c'est une certitude qu'on va mourir prochainement. Donc, de toute façon, il fallait le faire.
À quel moment est-ce que votre vue commence à décliner ?
2-3 mois après l'intervention, je commence à remarquer que voilà, j'ai l'impression que les lignes ne sont plus tout à fait droites quand je regarde un immeuble, des choses comme ça. Donc oui, vraiment, c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis j'ai le mal de tête suite à l'opération qui est censée durer quelques semaines qui ne passe pas. Et là, on me renvoie aux urgences. Il y a eu une partie de ping-pong, c'est moi la balle, où ils ne comprenaient pas ce qui se passait.
C'était quoi ce qui se passait, en fait ?
Ce qui se passait, c'est que j'avais la pression intracrânienne qui augmentait, parce que l'évacuation était bouchée. Donc ça agit sur les yeux assez vite quand la pression intracrânienne augmente. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tuyau qui vide la pression intracrânienne dans le péritoine, donc... Une voie secondaire, sauf qu'elle s'est bouchée assez vite, qu'ils ont mis du temps avant de recomprendre que la dérivation qu'ils ont mis en place ne marchait plus. À chaque fois qu'on passe du temps, bah, c'est des dégâts qui sont irréversibles. L'histoire est un peu plus compliquée encore, mais il y a eu pas mal d'allers-retours, de recherches. Les ophtalmologues ont essayé de trouver un médecin pour faire une intervention de dernière cours, c'est-à-dire sans résoudre le problème, mais d'essayer de soulager le nerf optique. C'est une opération qui ne se fait plus, les médecins ne sont plus formés, et ils en ont trouvé qu'un en Europe, qui était en Suisse, et le jour où il devait m'appeler pour fixer le rendez-vous, il a fait un infarctus. Et les ophtalmologues n'ont pas pu trouver un autre médecin capable de faire cette opération. Il fallait trouver où était le problème et résoudre l'origine du problème. Ce qui a pris encore un peu de temps, il y a eu encore un peu de dégâts. Une fois que les dégâts sont causés, c'est définitif.
Et pendant toute cette période, concrètement, ça se traduit comment pour vous, en termes de vision ?
On ne se rend pas forcément compte. Ben c'est vrai que le cerveau, déjà, compense beaucoup. Il fait en sorte qu'on voit le mieux possible. Vraiment, enfin, ce qui a commencé à m'alerter, c'est la nuit, quand j'ai commencé à avoir des zones lumineuses, des flashs. Puis gentiment, dans les conditions obscures, on voit de moins en moins bien. J'avais mon permis de conduire depuis quelques mois. Et oui, gentiment, on se dit, de nuit, c'est plus possible, je peux plus conduire. Et puis, des petites choses petit à petit, comme ça. Et puis j'ai eu un deuxième traitement aussi au rayon gamma, en fin d'année, et puis après, il faut attendre 10 jours pour que la situation se stabilise, puis c'est là qu'on se dit que ça va être compliqué, parce qu'on voit pas grand-chose.
Vous voyez quoi ?
À l'œil droit, on va dire rien, pratiquement. Et l'œil gauche, il y a le quart inférieur gauche de la vision, qui voit des ombres et des formes. En gros, un objet contrasté, donc blanc sur fond noir, ou l'inverse, il doit faire 3-4 cm pour que je le vois à 2 mètres. S'il fait moins de 4 cm, je ne le vois pas, avec l'œil gauche. Ce qui pose aussi des problèmes s'il y a des montées, des descentes. Donc pour se déplacer, ça devient très compliqué. Lire, c'est plus possible du tout. Parce qu'il faut que ce soit écrit tellement gros qu'on ne voit plus qu'une ou deux lettres. J'ai essayé des loupes électroniques et des choses comme ça. On voit deux lettres, donc c'est plus possible de lire un mot, en fait. On déchiffre comme un enfant qui apprend à lire. Heureusement. Il y a des technologies maintenant qui permettent de faire des choses assez impressionnantes. Mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que l'hôpital, ils vous disent, voilà, vous avez un problème, rentrez chez vous. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec l'ophtalmologue. Je me rappelle avoir annulé le premier rendez-vous chez l'ophtalmologue parce que je ne sais pas comment m'y rendre, en fait. On est fin décembre. Les gens ne sont pas non plus disponibles. Enfin, en tout cas, moi, j'ose pas spécialement demander à des gens de m'accompagner en pleine période des fêtes où tout le monde est très occupé pour aller chez le médecin. Donc, je me rappelle que ce rendez-vous-là, je l'avais annulé. Parce que, on n'est pas accompagné.
Et votre épouse ?
Mon épouse, elle a aussi les deux enfants à gérer. Enfin, elle m'aide comme elle peut aussi. Elle a un travail, deux enfants, et puis elle m'aide, on fait des recherches. Enfin, elle fait des recherches parce que moi, à ce moment-là, j'ai aucun outil. Et puis, c'est la période des fêtes. Et il faut aller voir la famille, qui là aussi va m'aider, va téléphoner à des associations, va essayer d'obtenir des réponses, parce que on se dit bien qu'il doit exister des outils. Il y a d'autres personnes qui vivent dans cette situation. Mais voilà, aucun accompagnement d'une institution. Enfin, faut vraiment se battre et aller chercher. Je me rappelle aussi le début du mois de janvier, où, quand mon épouse est à son travail et les enfants à l'école, je suis sur mon canapé à la maison, je fixe le plafond et j'attends que la journée passe. Là aussi, on se dit que c'est pas bien possible, que ça va pas durer. Et puis, heureusement, j'ai des amis qui ont des connaissances dans le handicap visuel et puis qui me disent on sait qu'il existe des choses pour les téléphones portables et qui m'installent les outils sur mon téléphone pour pouvoir avoir un lecteur d'écran, donc il nous lit tout ce qu'il fait. Tout en étant l'écran, il nous dit écran désactivé. Enfin, c'est vraiment très verbeux, mais on en a besoin quand on ne voit pas. Puis avec ça, j'ai pu commencer à chercher des informations par moi-même. Ça a été long. On est vraiment seul. Mon épouse m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé la force de continuer aussi beaucoup grâce à mes enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser tomber quand on a des enfants. On a envie aussi d'être là pour les voir grandir. Il faut se lever et se battre. Je trouve que vraiment, c'est venu de mon entourage qui a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et puis, on est arrivé à quelque chose maintenant qui me permet de travailler.
Comment est-ce que vous avez expliqué la situation à vos enfants? Ils avaient quel âge?
Ma fille, 4 ans et mon fils, 3 ans. Et puis, le handicap visuel, ça a forcé mon fils à parler parce qu'il est arrivé très tard sur le langage. Mais du coup, il s'est mis à parler au moment où j'ai plus pu percevoir les gestes et les choses qu'il faisait pour communiquer. Mais il a eu aussi un arrêt dans la courbe de croissance à ce moment-là. Alors, on n'a pas de preuves que c'est lié, mais on peut y croire parce que c'est vraiment au niveau des dates, ça joue. Donc, c'est quand même un choc émotionnel aussi pour eux. Mais eux aussi, ils avancent. Ils nous aident à avancer.
Quand vous arrivez chez vous, très concrètement, que vous êtes seul à la maison puisque votre épouse est au travail et que les enfants sont à la crèche, comment est-ce que vous faites pour vous déplacer, vous nourrir?
Alors déjà, je connais très très bien la maison parce que là j'ai grandi aussi. Et puis je vois un petit peu ce qui permet de contourner les meubles, de tourner autour de la table et puis d'aller aux toilettes, d'éviter déjà les obstacles. Après, pour boire ou comme ça, j'ai envie de dire, c'est le bon sens, effectivement, on met la main, on trouve le robinet, on sait comment il marche, et puis au fait de mémoire, si ça déborde un peu, ça déborde. Ma foi, au début, faut apprendre. Moi, j'ai eu cassé des verres parce qu'effectivement, je le cherchais. En passant la main sur la table pour le chercher, on le fait tomber. Une fois qu'il y a du débris de verre cassé par terre, puis qu'on voit pas, on est vite très embêté. Après, des aventures comme ça, oui. On fait brûler des choses en préparant à manger. On s'en rend compte qu'au moment où on le mange, c'est pas bon. Et après, on apprend des astuces pour que ça arrive moins souvent. Se servir un verre avec de l'eau froide, il faut mettre le doigt dedans. Quand on sent qu'il est arrivé au bon niveau, on peut s'arrêter. On a acheté des verres foncés. Ça, je peux, moi, un peu les distinguer sur la table. Ça m'évite de le chercher. On a des verres avec au toucher qui sont différents. Puis on apprend à organiser le frigo pour savoir où sont les affaires du petit déjeuner, où sont les affaires. Puis ça fait moins de choses à mémoriser parce qu'on fait tout de mémoire. Donc on a un petit coin du frigo, un petit bac en plastique où on met toutes les affaires du petit déjeuner. Puis on sait que dedans, s'il y a un bocal en verre, ce sera la confiture. Et on n'a pas tous les bocaux en verre du frigo à trier.
Est-ce qu'il y a parmi les gens qui vous ont entouré à ce moment-là, eu des réactions qui vous ont un peu heurté?
Non, alors souvent les gens sont quand même bienveillants, il n'y a pas de soucis sur le fond. Il y a eu des maladresses, ça c'est sûr. Ça peut être, regarde sur mon téléphone, j'ai pris une photo pour toi. Oui, ça part toujours d'un bon sentiment et puis... Faut pas se fâcher. Après, il y a des fois dans la rue des gens qui comprennent pas. Je me suis fait interpeller une fois à une gare parce que je me suis rendu au guichet. Et en fait, il y avait une file d'attente un peu en arrière. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui m'insultait parce que je m'étais pas mis correctement dans la file d'attente.
À quel moment est-ce que vous avez opté pour des aides du type CAN?
D'après ma vision, j'ai pas le choix. Enfin, il faut que j'aille une canne, parce que déjà, pour ma sécurité dans mes déplacements, et puis c'est vrai que ça indique aussi aux autres que je peux pas les voir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas simplement utiliser la canne, parce que ça rend réel leur handicap, ça les confronte. Mais alors ça, c'est une chose qui m'a pas posé de problème, parce que maintenant j'ai le handicap, il faut que je vive avec. Je peux pas envisager de rester sur mon canapé. Il faut que j'aille ma vie, que je continue à rencontrer des gens. Alors voilà, je suis actif dans des associations, donc je continue à me déplacer. Rester à la maison, c'est pas possible.
Au travail, comment ça s'est passé ?
En fait, juste avant qu'on me diagnostique la tumeur, j'ai été licencié de mon ancien travail, principalement parce qu'ils m'ont demandé d'augmenter mon taux de travail, ce que j'ai refusé, parce que je sentais bien que physiquement, ça n'allait pas être possible. Je ressentais un certain épuisement. C'est vrai que le diagnostic a été posé 4 jours après que je me sois inscrit au chômage, donc ce fut plutôt compliqué. Mais j'avais aidé un copain à faire 2-3 tâches informatiques pour une entreprise qu'il créait à l'époque. Quand j'ai eu le handicap et que j'ai commencé à trouver des outils pour pouvoir travailler, j'ai pu lui demander si je pouvais, dans son entreprise, commencer à faire un stage pour voir, évaluer quelles étaient mes capacités de travail avec le handicap. De nouveau, ce fut assez long parce qu'il y a tout un processus administratif avec les diverses institutions, mais on a pu trouver un équilibre. Et puis aujourd'hui, je travaille comme employé dans cette entreprise.
Comment est-ce qu'on fait de l'informatique quand on est malvoyant ?
J'ai une synthèse vocale, donc un programme qui va du coup lui reprendre les informations qui sont visuellement placées à des endroits. Et il va me les retourner soit par la synthèse vocale de manière vocale, soit j'ai une ligne braille, et puis il va me renvoyer le texte en braille. Ça permet d'avoir une vision, si on veut, vraiment complète de toutes les informations. Alors des fois, il y a des choses qui sont plus dures à trouver, ça prend plus de temps. J'ai envie de dire rien que l'heure qui est placée en bas à droite, qui est très facile à aller visuellement. Là, ça demande de la manipulation du clavier pour sélectionner la barre et puis se déplacer. Mais dans la plupart des tâches, je ne prends pas plus de temps qu'une personne voyante. Quand il faut écrire un rapport, quand il faut compléter des données, quand il faut faire des recherches, ce genre de choses, là, ça ne prend pas plus de temps.
Vous avez un clavier en braille ?
J'ai un clavier en braille. J'utilise beaucoup le clavier normal, que j'ai mémorisé. D'ailleurs, sur le dernier ordinateur que j'ai acheté, ils ont mis des autocollants sur les touches. C'est du matériel d'occasion, et puis ils ont mis des autocollants sur les touches, et puis ça décolle, les autocollants se décollent. Ça pose des problèmes aux gens qui viennent m'aider, qui veulent intervenir sur mon clavier, mais moi j'utilise complètement de mémoire, donc ça ne me pose pas de problème. Et après, j'ai le clavier braille. Dans certaines situations, c'est plus pratique.
Et dans des situations très concrètes, je ne sais pas, en faisant vos courses ou en remplissant des formulaires, est-ce qu'il y a des petites choses en particulier qui vous sont apparues comme soudain tellement plus difficiles que vous êtes dit qu'il fallait trouver une autre façon de procéder ?
Remplir un formulaire, on ne peut plus remplir un formulaire. Mais alors soit on peut l'avoir en format informatique et on peut le remplir, soit on a une personne qui vient m'aider à faire l'administratif, puis du coup on remplit les formulaires ensemble. C'est du coup une tâche où on est accompagné. Les situations les plus problématiques, je pense, les choses qu'on fait seul, on ne se rend pas compte, c'est faire les courses, effectivement. On ne peut pas se retrouver devant un rayon, on ne sait pas ce qu'il y a dans le rayon, on ne peut pas choisir. Faire ses courses et se déplacer dans un endroit inconnu. Venir dans une adresse où on ne connaît pas, le GPS va nous amener à peu près au bon endroit. Par contre, après, repérer l'immeuble qui a le bon numéro. Ou alors après, il y a des carrefours des fois, ou des choses où c'est très compliqué. Se déplacer dans une gare qu'on ne connaît pas. Alors les CFF mettent des repères en bas des escaliers pour savoir sur quel quai va l'escalier. Mais en fait, si on ne sait pas où sont les escaliers, ça ne nous aide pas. Donc les deux grandes situations là, que j'évite encore le plus souvent possible aujourd'hui, c'est les supermarchés, parce que je dois trouver quelqu'un pour m'accompagner, donc je dois demander au service client s'ils n'ont pas une personne qui peut venir m'aider à faire les courses. Ils le font toujours de bonne volonté, mais moi j'ai de la peine à demander ce service. Donc j'évite vraiment les supermarchés. Concrètement, du coup, je vais dans une boulangerie où il y a quelqu'un qui est dédié au service, plutôt qu'aller au shop de la gare où j'aurais pu avoir le même service pour moins cher. Et puis voilà, se rendre dans un endroit inconnu. Donc soit j'appelle la personne sur place pour que, au moment où j'arrive, j'ai quelqu'un pour faire le bout du trajet final. Soit des fois, je demande à mon entourage de m'accompagner le jour avant ou la veille. Comme ça, je prends des repères pour savoir où je dois aller. Mais c'est vraiment les deux situations les plus pénibles encore aujourd'hui.
C'est dans ces situations, j'imagine, qu'on réalise aussi à quel point les villes sont pensées pour des gens valides à tout point de vue et très peu pour les handicaps quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont fait la différence pour vous ?
Les lignes blanches, alors Lausanne est un exemple. Les lignes de guidage, vous avez peut-être déjà vu deux bandes de trois lignes qui sont au sol. Quand elles sont en bon état, c'est vrai que c'est un confort. On se repose dessus, on suit avec la canne. On se pose plus trop de questions. On sait qu'on peut suivre, que la voie est dégagée, qu'il n'y a pas d'obstacle et qu'on va arriver en haut de l'escalier ou à l'arrêt de bus. Enfin, ça peut amener à différents endroits suivant la situation. Il y a des villes comme Lausanne où ça marche plutôt bien. Mais il y a d'autres villes où en théorie, ça devrait être fait, mais il n'y a rien qui est fait, où c'est fait à moitié. Et puis du coup, il y a des lignes qui s'arrêtent au milieu de nulle part. Là, c'est tout de suite beaucoup moins confortable de se déplacer. Enfin, il faut connaître le trajet par cœur.
Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos autres sens se sont développés pour compenser ?
J'ai l'impression d'avoir appris à utiliser le sens du toucher pour détecter certaines choses. Je suis aussi naturellement plus attentif. C'est-à-dire que s'il y a un bruit ou une odeur, je vais plus y faire attention parce que je ne suis pas distrait par le visuel. Le côté pas pratique, c'est l'inverse, c'est justement dans un environnement bruyant, les personnes voyantes sont moins gênées par les bruits, parce qu'ils regardent la personne avec qui ils discutent, puis le cerveau compense l'information qu'il n'entend pas par ce qu'il voit. Pour moi, c'est plus possible, donc dans un environnement bruyant, c'est vraiment fatigant. Ça, c'est une chose aussi, quand je fais des sensibilisations avec des personnes voyantes, quand on met un masque, c'est une des premières choses qu'ils disent, c'est « Ah, mais en fait, il y a du bruit dans la salle ». La salle est bruyante.
Ah, c'est des sensibilisations où des personnes mettent un masque pour se mettre en situation de handicap visuel.
Voilà. Moi, j'étais un gros joueur de jeux de société. Et puis, j'ai pu découvrir assez vite une association qui adapte des jeux de société sur France. Et puis, du coup, j'essaye de les aider à faire la même chose sur Suisse. Donc oui, en fait, de temps en temps, des sensibilisations. On fait porter des masques aux gens, puis on les fait jouer à des jeux avec les masques. Ou avec la Fédération Suisse des Aveugles, on fait aussi des petits chemins pour montrer aux gens comment on utilise la canne blanche, des choses comme ça.
Comment est-ce que c'est adapté votre vie sociale à partir du moment où les choses se sont installées, puis les gens ont repris le cours de leur vie, et puis vous avez trouvé un certain nombre de solutions? Comment est-ce que vous avez maintenu ce lien avec vos proches?
Les sorties de groupe, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais c'est plus du coup des invitations, et puis on se voit pas beaucoup, à 4 ou 5, mais rarement plus. Parce que aussi, c'est toute une organisation. Il faut prévoir le moyen d'aller, de revenir de la maison. Il faut. Bon, il y a les enfants. Ça, c'est pas lié au handicap, mais ça fait beaucoup de facteurs à gérer. C'est sûr que quand j'avais une voiture, c'était une organisation moins importante de faire une sortie avec les copains. Maintenant. On fait moins et puis on choisit un peu plus des personnes. Donc on voit forcément moins de monde, donc on s'est éloigné de certaines personnes, mais enfin, il n'y a personne qui est parti.
J'imagine qu'il y a quand même eu des moments où la solitude a quand même dû être extrêmement difficile à vivre.
Pour moi, le plus dur, c'était vraiment le début, quand je ne connais pas les solutions. J'ai l'impression que ça va être comme ça, que je vais renverser mon verre d'eau tous les jours. Et c'est en découvrant les solutions, petit à petit, je me suis dit qu'en fait, on peut continuer à vivre et plutôt bien. Mais la période la plus dure, c'est vraiment le moment où vous retrouvez malvoyant à la maison et puis vous n'avez pas de conseils.
Vous avez eu un suivi psy ?
Oui, c'est essentiel. Mais de nouveau, il a fallu le demander, l'organiser. J'ai dû apprendre le trajet pour y aller seul, parce que, de nouveau, c'est bête, hein, mais les heures de rendez-vous, c'était pas toujours possible d'être accompagné, donc j'ai dû apprendre comment m'y rendre avant de commencer vraiment le suivi. Il y a beaucoup de défis quand on arrive dans une situation à handicap quelconque. Je pense qu'il n'y a pas de handicap plus facile que d'autres.
Et est-ce que vous avez cherché à vous lier d'amitié aussi avec des gens qui étaient dans la même situation, dans des moments où vous vous sentiez super seul et pas accompagné?
Au moment où j'en avais le plus besoin, je connaissais personne. Et puis maintenant que je connais ces associations, que je connais ces personnes, je me lie d'amitié et puis on essaye de construire des choses pour avancer, pour pouvoir accompagner un peu plus les gens. Beaucoup de ces solutions sont venues de la part d'autres personnes dans des situations similaires. Donc ce contact a été très précieux. Pour moi, il faut améliorer et qu'à l'avenir, ce soit plus facile, ce genre d'accompagnement, au moins au début, de pouvoir aider les gens à découvrir les outils, à surmonter les premiers obstacles. Puis après, chacun doit trouver sa voie.
Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ?
Ce qui me manque le plus, c'est de voir le paysage. C'est vrai que j'habite une magnifique région et puis j'aime beaucoup la nature. Je faisais de la photo aussi avant. C'est ce contact avec la nature qui me manque le plus. Après, il y a plein de choses qui sont différentes. On a l'impression au début qu'on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Et plus de temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, alors, des fois différentes. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué, des fois... Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça fait 5 ans maintenant que je suis malvoyant, donc j'ai encore sûrement plein de choses à découvrir, mais déjà, mon entourage me dit que voilà, ils sont impressionnés parce que je suis actif et je fais beaucoup de choses. Il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et je me réjouis de découvrir jusqu'où je peux aller.
De quoi sont faits vos week-ends, vos soirées? Quels sont vos hobbies?
Je fais du jeu de société beaucoup. J'ai pas mal de contacts avec diverses associations, aussi bien en tant qu'informaticien avec l'informatique qu'avec le côté malvoyant. Et puis, je me suis récemment engagé en politique, donc j'ai aussi une petite activité politique. Et puis, c'est vrai que la télévision, maintenant, ça peut m'arriver de regarder... C'est beaucoup des reportages où c'est très vocal l'information, mais voilà. Après, j'ai pas de barrière particulière. J'ai pu continuer à avoir des ordinateurs à la maison, continuer à installer, continuer à dépanner mon épouse quand elle a des problèmes sur son ordinateur. Des choses banales, mais qu'au début, on n'imagine pas.
Dans quelle mesure est-ce qu'on oublie les images qu'on peut avoir emmagasinées dans son cerveau, par exemple les visages de vos proches? Est-ce que c'est des images que vous revisitez et est-ce qu'elles restent intactes?
Alors, c'est des images que je revisite, mais je ne sais pas à quel point elles sont toujours d'actualité, à quel point je ne les aurais pas transformées, idéalisées, ou je ne sais pas, mais typiquement les enfants, je sais qu'ils ont grandi et puis... J'ai l'occasion de pouvoir les voir de près parce que je vois encore un petit peu. Donc je m'imagine à peu près, mais c'est forcément une reconstruction partielle. C'est moi qui imagine. Mes proches, je les ai tous connus en étant voyant. J'ai des souvenirs. Après, je ne saurais jamais à quel point j'idéalise pas ou j'ai pas imaginé des évolutions ou des choses sur l'image. Mais... C'est pas très important. On apprend en tout cas, à pas s'attacher à ça. C'est des proches, je les connais sous plein d'autres facettes que leur visage.
Qu'est-ce que ça change aussi au sujet de sa propre apparence, de son propre regard sur soi?
Bon, moi j'ai jamais été très attaché à mon image. Alors oui, se présenter comme il faut, mais du coup c'est le regard que les autres portent sur soi. Je fais ce que je peux, j'essaye de m'habiller un peu proprement. Mais c'est vrai que des fois, on maîtrise plus tout. On se touche les cheveux, on regarde si ça vaut la peine d'aller chez le coiffeur, mais on le dit pas en se regardant dans le miroir. Mais la réflexion après est la même. Moi, j'ai mon armoire qui est triée par un type des vêtements, les vêtements clairs, les vêtements foncés, les habits plus décontractés, les habits un peu plus formels. Après... Il existe des applications sur smartphone ou des appareils dédiés qui distinguent les couleurs et qui les annoncent vocalement, mais moi je n'utilise pas ce genre d'accessoires parce que j'ai des pantalons plus ou moins neutres et puis je mets un t-shirt, un polo, une chemise, puis ça devrait aller ensemble. Je sais pas si j'ai un t-shirt bleu ou rouge, et ça me dérange pas.
Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves?
C'est une question qu'on pose souvent aux malvoyants. Mes rêves sont avec l'image, complètement visuels aussi. Même dans mes activités du quotidien, mon cerveau a tendance à mémoriser des images, même s'il ne les a pas vues. Mon cerveau fonctionne avec le côté visuel, et a priori ça dure. Même des personnes qui sont nées malvoyantes ont des visualisations dans leurs rêves.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux gens qui ne sont pas malvoyants et peut-être dans la sensibilisation du grand public pour mieux prendre en compte les besoins en fait, des personnes malvoyantes?
C'est assez simple, enfin, c'est juste vraiment écouter. Puis il y a de bienveillant, parce qu'il y a des choses on n'imagine pas forcément quand on est voyant où sont les difficultés. C'est être à l'écoute des besoins et puis pas vouloir aider quelqu'un sans lui demander quel est le besoin. Il y a des gens qui veulent aider, qui veulent faire plus que ce qui est attendu. Des fois on dit j'aurais bien aimé pouvoir faire, et puis non, la personne nous a aidés et puis a fait à notre place. On n'ose pas se plaindre parce que du coup, la personne a voulu nous aider. Puis elle a fait un peu trop.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Ça peut être quelqu'un qui refuse de vous laisser aller tout seul quelque part. Alors qu'il n'y a pas de souci, vous savez vous déplacer, vous connaissez le trajet. Et puis des fois, vous dites, non, je veux y aller, comme ça peut-être je peux m'arrêter, prendre une boisson en chemin, ou ça, je sais pas, puis non. Ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me fasse traverser la rue alors que j'avais pas spécialement envie de traverser la rue. Alors je m'étais arrêté a priori devant le passage piéton et puis je devais consulter mon téléphone. Personne m'a pris le bras et m'a fait traverser. Ça part d'un bon sentiment. Puis ça en laisse faire. Une fois j'ai refusé une personne aussi qui voulait me faire descendre un escalier alors que c'était pas là que je voulais aller. Ça c'est des choses qui peuvent arriver.
Donc pour les gens qui voudraient aider, comment est-ce que vous leur suggérez d'interagir avec les personnes malvoyantes?
Vraiment poser la question. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et puis si la personne dit non, c'est pas la peine d'insister.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à des gens qui étaient voyants et qui ont perdu la vue en cours de route?
Ce message, c'est que pour moi, c'est pas la fin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On voit des gens malvoyants qui font des sauts en parachute, qui font du vélo, c'est des choses qui paraissent anodines, mais qui sont très très compliquées. Mais c'est possible, tout est possible, et je pense que depuis 15 ans, il y a des outils technologiques qui permettent de faire des choses absolument incroyables, qui permettent à des personnes avec un handicap visuel de vraiment avoir des activités presque comme une personne voyante. Alors tout le monde ne fera pas du parachute, mais le fait que ce soit possible, je trouve que ça c'est encourageant.
C'est quoi votre rêve ?
De pouvoir conduire, c'est pas tellement le fait de pouvoir conduire, mais c'est le fait de pouvoir se dire que la liberté qui va avec, l'autonomie, de pouvoir se dire, oui, je peux être à l'heure voulue, à l'endroit voulu, sans me demander si je prends le premier train, que je change, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Enfin, voilà. Ouais, pour moi, c'est la liberté, je pense, vraiment du déplacement, de pouvoir se dire, ce soir, je peux rester avec des amis, je suis pas coincé parce que le dernier train est parti.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!